Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez ?
Trois cafés. Merci.
Bonsoir Jean-Baptiste. Comment vas-tu ?
C'est lancé là ?
Bien sûr que c'est lancé.
Ah d'accord.
Bon. Je l'ai refait. Bonsoir Jean-Baptiste, comment vas-tu ?
Bien, très bien Yannick, et toi ?
Bah écoute, ça va très bien. Ce soir on est avec donc Jean-Baptiste pour la deuxième partie de notre du podcast sur le retour sur les financements participatifs, et on est avec François quand même.
Bonsoir.
Qu'on l'abandonne pas à chaque fois. Donc cette fois on est trois. Donc et on n'est pas au café, on est plutôt à la Guinness. Donc je voudrais qu'on revienne un petit peu sur sur le dernier podcast, sur ce que tu nous avais dit, voir si tu avais des choses à ajouter par rapport à la dernière fois. On a eu des questions aussi sur le blog, auxquelles ce serait sympa que tu répondes si tu veux bien.
Degré ou de force.
Degré ou de force.
Bah, autant qu'on commence par là, moi ça me mettra en jambes, comme ça après je pourrais commencer à dire du mal des gens. Enfin voilà. Faut que je m'échauffe.
Faut que tu t'échauffes. Donc tu nous as parlé la dernière fois de comment tu avais monté le financement participatif avec Millennium Jones, les contreparties que tu avais commencé à organiser. Je crois qu'à un moment, François, tu vas avoir des questions ou des remarques à faire là-dessus.
Peut-être, on verra bien.
Mais on avait une question de Stéphane sur le blog qui disait, en t'auto-éditant, finalement en faisant toi-même tout le travail, t'as intégré, t'as intégré la chaîne de valeur en fait. T'as retiré une grosse partie du travail, ou plutôt t'as intégré au sein de ton travail toute la partie édition elle-même. La partie fabrication, la partie discussion en fait avec l'auteur finalement, avec toi-même. Et donc la question que pose Stéphane, c'est t'es auteur, éditeur, commercial, tu fais le service après-vente, t'es chef de projet. A priori, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a tout un ensemble de compétences que tout le monde ne possède pas. Est-ce que tu as acquis ces compétences-là ? Comment t'as fait pour tout faire, en fait ?
Déjà, je ne suis pas tout seul, dans le sens où Millennium Jones m'a aidé sur pas mal de choses très pratiques, parce que je suis quelqu'un... je suis très bon pour taper des doc words, mais pour tout le reste, je suis à chier. Je dis pas des bons doc words, je suis très bon pour remplir des pages de Word. Voilà, c'est attention, faudrait pas être mal compris là-dessus. Non, mais en fait, là aussi où j'ai été beaucoup aidé, c'est que j'appartiens à un collectif d'auteurs brillants, qui est donc le collectif Studio Gobzinc. Et donc j'ai eu pas mal de très très bons relecteurs, de gens à qui j'envoyais les V1, V1.1, V1.2, etc., etc. et qui pouvaient me dire ça va pas.
Mais ça c'est pas un travail d'éditeur, c'est un travail d'auteur.
Oui, mais...
L'apport des gens du studio pour le compte, ça se rapproche d'un travail d'édition.
Voilà, enfin moi j'avais des guides. Alors même hors studio, j'ai pas mal de gens qui avaient suivi le projet à son étape vraiment 1, c'est-à-dire au moment où j'avais pitché vraiment la base sur le forum John Doe, à l'époque où la cité ça se voulait être un univers pour le DK, pour l'embryon des 1000 marches de LG qu'il avait posté sur le forum DK. Donc j'avais posté vraiment un premier, on va dire que la V1 de la cité, elle avait été sur le forum, donc j'avais eu un moment de retour public, on va dire, donc des habitués du forum John Doe. J'avais eu donc pareil, donc les gens qui ont ensuite fait le studio Gobzinc qui ont pu m'aider. Paradox au début m'a filé quand même un petit coup de main pour mettre la machine en route, etc. Voilà, j'ai eu des beaucoup de relectures, j'ai eu de très très bons relecteurs, vraiment des gens qui m'ont rien laissé passer, et ça aide beaucoup. Et puis après voilà, on a les qualités de ses défauts. Il se trouve que je suis un monomaniaque psychorigide, et je suis extrêmement critique vis-à-vis du travail des autres, ça, tout le monde le sait, mais aussi vis-à-vis du mien, ce qui fait que je me suis pas vraiment laissé passer, je me suis pas laissé aller à la facilité. Sur pas mal de trucs, j'ai repris jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des textes que j'ai remaniés 257 fois en m'interrogeant de façon shakespearienne sur tel point virgule à tel endroit, etc., etc. Et à chaque fois, j'avais être ou ne pas être. Telle est la question, et à chaque fois j'ai envoyé sur le studio, voilà, ceux qui veulent relire, relisent, me disent ce que vous en pensez, etc., jusqu'à ce que j'obtienne une version qui moi me satisfasse pleinement. Alors il y a des suggestions qu'on m'a faites dont je n'ai pas tenu compte, parce que voilà, j'ai un petit côté tête en bois, il y a des trucs où moi j'estimais que c'était bon. Peut-être que j'aurais dû
tenir compte
de tout, mais non, j'ai fait des choix et j'estimais que voilà.
De toute façon, quand t'as des retours multiples, tu peux pas tous les intégrer, parce que tu peux même avoir des retours qui vont être
contradictoires.
Parce que finalement, un leur lecteur, enfin quelqu'un qui te refait une relecture sur le fond, fait une relecture de fond, il donne un avis en fonction de sa sensibilité, de ce que lui aimerait voir, ou de ce qui lui plaît ou de ce qui lui plaît pas. Donc si tu as plusieurs personnes qui font des retours, bah forcément toi, dans ta position d'auteur-éditeur, tu fais aussi le choix de trancher.
Bien sûr, mais après, c'est jamais une position facile quand tu es face à quelqu'un qui te fait une suggestion et où tu dois lui répondre « bah non ». Écoute, cette suggestion-là, la 1, elle est pertinente, la 2, honnêtement, je n'en tiendrai pas compte. Donc après, il faut être avec des gens qui acceptent aussi ce jeu-là, cette dynamique-là de « je vais filer plein d'idées, l'auteur en gagnera peut-être une ou deux, et c'est tout ». Et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, quoi.
Alors, ce que je retiens de ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, il y a une partie du travail d'éditeur. On va essayer de définir un moment ce que c'est le travail d'éditeur. Mais en tout cas, sur la partie création elle-même, ou accompagnement dans la création, qui a été fait en communauté, en fait.
Parce que
quand tu dis des relecteurs, c'est pas simplement des relecteurs, c'est aussi des gens qui t'ont apporté des idées.
Des suggestions.
Des suggestions, qui t'ont dit que le texte, il devrait plutôt avoir telle longueur plutôt quelle longueur. Tu vois, c'est, pour moi, ça, c'est un travail d'éditeur qui est fait, qui est une petite partie, tu vois. On a parlé la dernière fois de la publicité, par exemple. La publicité, c'est toi qui l'as faite toi-même.
Oui, mais après, là encore, j'ai été relayé par le studio Gobzinc et par les fans de la première heure de la version gratuite qui était sur le forum Jundo. J'ai eu des gens qui ont été faire de la pub pour le projet sur des forums dont j'ignorais même l'existence. Et de même, on a eu un petit entrefilet sur le site du collectif Gobzinc. Moi, j'ai effectivement, là où j'ai fait un peu le VRP, c'est que j'ai contacté les gens donc de Dissident pour leur demander de parler un tout petit peu du financement participatif dans leur
ouais, mais tu vois,
dans
ça
le fixe. Dans le fixe, ouais, tout à fait.
Ça, c'est un boulot de RP, quoi.
Oui, mais
Là, on est carrément, t'es plus du tout dans le boulot d'auteur. Là, t'es sorti de ton domaine pour arriver sur quelque chose de vraiment différent.
Oui, mais nécessité fait loi. Le truc, c'est que moi, je suis à un stade en termes d'auteur de JDR qui est assez intermédiaire. C'est-à-dire que je suis suffisamment connu pour pouvoir faire financer un projet, mais je suis pas suffisamment connu pour que rien que mon nom vende le projet. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où certains auteurs de JDR en France balancent le projet, le bouche à oreille va se faire de lui-même.
Pas que en France pour le compte.
Oui, oui, bien sûr.
Mais là tu parles des auteurs français.
Oui. Oui, je parle en France, voilà. Le projet, voilà. L'auteur va se prendre en disant je veux faire ça, tout le monde va relayer l'info. Moi j'en suis pas à ce stade-là, je dois relayer l'info moi-même. Et donc effectivement, il y a un côté RP.
Ça peut dépendre du pitch aussi. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont tellement de notoriété que quel que soit le truc qu'ils vont aller pitcher, quel que soit le degré d'avancement, tu vas avoir un effet de bruissement qui va se répercuter. Ensuite, même sur quelqu'un de moins connu, s'il arrive avec un pitch vraiment très particulier, très original, tu peux avoir un effet d'amplification sur l'intérêt sur l'intérêt du pitch.
Ou même une page, parce que là, c'est vrai que la page en elle-même va vendre, la page Ulule, une page particulièrement bien léchée, et notamment ce truc qui est crucial, la capacité à avoir des illustrations avant le financement. Si voilà, tu te pointes avec une page Ulule qui a des illustrations originales, qui ont le bon goût d'être belle, tu peux être sûr que tu vas éclater atteindre ton palier.
Alors, en dehors de ces aspects-là, tu as aussi à faire un boulot de chef de projet, c'est-à-dire de gérer des tâches qui soit pas juste l'écriture, qui soit effectivement tout ce qu'on a décrit précédemment, d'ordonnance et tout ça, avec le temps libre que tu avais. Tu as réussi à le faire correctement ? Est-ce que tu as eu des difficultés ? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je passe trop de temps à gérer cette partie-là, je devrais plus passer de temps à écrire le texte, ou à remanier, ou à faire un peu... Il n'y avait pas de système, et je sais pas moi, à faire un peu de description, par exemple. Mais je peux pas, parce que dans le temps que je me suis donné, bah, il faut que je fasse un peu de publicité, que je réponde à des mails de gens curieux, que je gère ma page Ulule, etc. Tu vois, c'est-à-dire que le temps, en tant qu'auteur, c'est déjà compliqué de dégager le temps nécessaire pour écrire ce que tu as envie d'écrire et d'arriver à quelque chose de correct. Mais en plus de ça, il a fallu que tu divises ton temps dans toutes ces autres opérations.
Là, à mon avis, il y a déjà un truc important à faire, c'est de cloisonner ces activités, c'est-à-dire d'être dans la phase, je pense, tu vas m'arrêter si je dis une bêtise, mais le moment où tu lances la campagne de financement, moi j'ai l'impression qu'il faut avoir déjà le gros de ton texte qui est fait. Faut pas te mettre
pour pouvoir te concentrer sur tout le reste, en fait.
Exactement. Ouais. Ça va avoir deux effets. Si tu as préparé ton texte avant, déjà tu peux te concentrer à fond sur la campagne et sur le fait de gérer les retours, parce que dans le cadre de ta campagne de financement, tu vas avoir des retours, ce qui peut éventuellement générer de nouvelles idées ou des besoins de modifications dans ce que tu as fait, et au moins là tu as bossé sur quelque chose qui est prêt. Et surtout, lorsque tu arrives à la fin de ta campagne de financement, c'est un moment où les gens, vraiment, bah, ça y est, leur argent il est parti, il arrive chez toi. Bah, si ton texte il est déjà prêt, que modulo, les dernières relectures, les dernières petites modifications, bah, la finalisation du projet, elle est assez rapide. Bah, à l'inverse, si tu dis ouais, j'ai une super bonne idée, j'ai 10% de mon texte, tu passes un mois à gérer ta campagne et fatalement à devoir communiquer, à passer du temps en ligne et à pas écrire pour mener ta campagne au bout, bah, tu arrives au bout de ta campagne, de ton mois super intense. Si ça se trouve, tu es sur les rotules. Et là, c'est le moment où on va dire bon, bah maintenant, garçon, les 70 000 signes qui te manquent, faut que tu les grattes. Oh purée, ouais, non, mais j'en peux plus.
Justement, est-ce que c'est pas entre autres à cause de ça qu'il y a quand même plein de Kickstarter ou d'Ulule qui prennent du retard?
Oui,
parce que les mecs qui démarrent sur une idée et finalement ils se plantent ou ils comprennent pas que ça prend plus de temps que nécessaire.
Il y a deux ans, je crois, j'ai la deuxième campagne de financement sur laquelle j'ai mis des sous, c'était pour un remake de Métamorphosis Alpha. Le mec a fait une petite campagne, je sais même plus combien il a levé, mais effectivement, il l'a levé sur l'idée de voilà ce que je vais faire. Il avait ses idées, c'était plutôt sympathique, mais le texte n'était pas prêt. Et donc derrière, bah, ça fait deux ans que le texte se prépare petit à petit. Il a le bon goût de lâcher des pages régulièrement. Bon, il y a plein de chapitres du bouquin qui ont déjà circulé chez les gens qui ont financé. Donc tu vois que le truc avance. Donc c'est plutôt rassurant. Mais cela étant,
mais il s'est quand même pas sorti à
ça
temps,
pas fait, quoi. Voilà, ça s'est pas fait dans le bon sens.
Moi, j'aurais tendance, si je devais le faire moi, je pense que j'aurais écrit 90% du bouquin. Avant de sortir quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire, je dirais, bah voilà.
Et ça, c'est
quasiment tout est prêt.
Ça va être très vrai, je pense, pour une campagne où tu es tout seul, où vraiment une toute petite équipe. Pour des campagnes, pour financer un truc qui se fait à plusieurs, ça peut peut-être se gérer différemment, parce que dans ce cas-là, tu vas avoir quelqu'un qui va prendre le rôle, probablement, enfin, qui va se focaliser sur la campagne elle-même. Pendant que d'autres vont gratter.
Bah, là, justement, ce qui m'intéresse, c'est le retour de Jean-Baptiste sur ça, parce que l'idée, c'est justement comment on fait quand on est une toute petite équipe de une ou deux personnes, quoi. Tu vois ?
Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à cette conversation. Le célèbre oui, mais non. Alors, en fait, le.
D'accord, vas-y.
En fait, le truc, c'est que oui, dans l'absolu, il faudrait avoir écrit, on va dire, le squelette du texte avant de se lancer. Le truc, c'est que ça dépend vraiment de la taille de ton projet. Dans le sens où le financement participatif, c'est aussi une façon de s'assurer qu'on ne bosse pas pour rien. Alors, je vais, pour être plus clair, moi, quand je suis MJ, quand je suis animateur de partie, je bosse essentiellement à la note. C'est-à-dire, j'ai des choses griffonnées, mais absolument pas formalisées, etc. etc. Quand je passe en mode VRP, quand je passe en mode « donnez-moi vos sous », je peux pas me contenter de ça. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une mise en forme, même du premier draft, du fameux squelette, une mise en forme bien écrite, propre, avec une recherche de syntaxe, une recherche d'organisation du texte, etc., etc. Ce travail-là, c'est un travail, donc, à partir du moment où je suis dans l'obligation de le faire, là, je vais paraître encore une fois très présomptueux, mais j'entends être rémunéré pour ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que si, mettons, sur un projet de texte de 60-70 pages, tu te dis, je me lance que si j'en ai fait la moitié, donc 30 ou 35, ça veut dire que potentiellement, si tu te plantes, tu as fait ce travail d'organisation de 30-35 pages pour cud, pour rien. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Maintenant, pour pondérer, parce que s'il y a vraiment une chose que m'a appris la cité, notamment le retard que j'ai pris par rapport aux compagnons, là où je suis complètement d'accord avec François, c'est que avoir ce squelette avant, on va dire, le financement, ça aide énormément à se motiver pour la suite, puisqu'on sait que la base est posée, et surtout, et là c'est quelque chose qui moi m'a frappé, et c'est à l'avenir comme ça que je m'obligerai à organiser mes prochains financements. Ce qui est très intéressant dans cette dynamique-là, c'est pour peu que ton squelette soit jouable, ce que tu peux faire, c'est que dès que tu as atteint le palier nécessaire, tu livres le squelette disant voilà, je vous file, on va dire, l'équivalent d'un Quick Start Rules pour un jeu de rôle, en disant voilà, de toute façon vous avez payé, vous avez vos 35 pages. Maintenant, vous allez attendre les 70, c'est-à-dire que ce que je vais vous filer, c'est la base. Maintenant, je vais étayer, arranger, augmenter,
c'est une bonne
idée,
ça.
etc. Ouais,
j'aime bien, ouais.
Et donc voilà, de toute façon, à l'instant même où le palier est atteint, la personne qui t'a filé des sous, il a quelque chose de jouable. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et notamment, ça te permet ensuite d'affronter sereinement le taf parce que tu as déjà livré quelque chose.
Ok, ouais, effectivement, c'est une bonne idée.
Mais par contre, ça implique voilà, de revenir, on va dire, à la prise de risque. Quelle est la prise de risque de base de l'éditeur et de l'auteur d'un jeu de rôle lambda hors financement participatif, à savoir d'écrire un truc qui se vendra pas. C'est-à-dire, toi, faire ton squelette pour rien parce que finalement, personne s'intéresse à ton projet.
Parce que finalement, dans le mode d'édition conventionnel, les mecs qui ont une idée, qui se lancent, qui écrivent un truc, qui l'auto-éditent, qui sont contents qu'on leur 500 exemplaires et qui derrière doivent essayer de découler, ça a existé, ça, ce genre de situation.
Tout à fait, mais à la limite, ce qui est intéressant, et là encore une fois, je réfléchis au fur et à mesure que je parle, mais enfin, c'est vraiment une réflexion que je me fais, c'est au pire, tu finances pas, tu t'es obligé à écrire tes 35 pages. Bah, tu fais un PDF un petit peu sympa de tes 35 pages et tu le vends sur Lulu pour 2 ou 3 euros symboliques. Voilà. Au pire, t'en vendras 30. Voilà. Ouais. Mais bon, au moins, tu te paieras un resto avec ces 35 pages. C'est symbolique, mais c'est toujours ça le prix. Et on en revient à... T'as quand même livré un jeu. Un jeu qui va être lu. Même si c'est un squelette de jeu, un embryon d'univers.
Ouais. Vas-y, tu veux bien.
J'ai vu des campagnes qui étaient faites, en fait, où l'auteur lancer la campagne non pas pour financer le jeu lui-même mais pour financer les illustrations du jeu.
Ah, c'est, tout à fait, moi c'est à ça que je pensais, notamment enfin, bon, dans mon propre cas, c'est à ça que je pensais, c'est de dire on n'a pas les compétences, il y a une compétence qu'on n'a pas et qu'on ne va pas pouvoir acquérir qui est par exemple l'illustration ou la maquette qui n'est pas simple à faire ou je sais pas, n'importe quel truc super technique et balèze. On n'a pas cette compétence là, le jeu il est terminé mais quand même il n'est pas vendable dans cette situation. Est-ce qu'on ne peut pas faire un Kickstarter pour payer la compétence qui nous manque?
Dans l'exemple là qui s'est passé, donc c'est un auteur anglais qui a fait un jeu qui s'appelle Machination of the Space Princess, qui est un jeu de space-up en mode très métal hurlant, pour le côté ambiance très métal hurlant et puis côté règles très old school.
Oui, parce que je crois que c'est un dérivé de la Mountain of the Flame Princess.
Exactement. Et en fait, il avait posé les bases de son jeu, mais il voulait sortir un PDF, sortir un bouquin et le vendre. Mais sa campagne de financement participatif a servi essentiellement à financer l'illustratrice qui lui a fait les dessins. Et il était en mode, je ne sais plus combien il avait demandé de base, mais il avait pas demandé des trucs hallucinants, parce que l'idée, c'était pas de faire une précommande, mais juste de solliciter suffisamment de personnes pour pouvoir avoir un produit fini qui soit joliment illustré, donc qui soit plus facile à vendre.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait pas faire un palier? Tu dis, je dis n'importe quoi, 1000 euros, je vous sors le jeu sans illustration. 4000 euros, je vous sors avec les illustrations.
C'est exactement ce que j'ai fait pour la cité. Puisqu'en fait, on avait le palier, on vous fait le jeu, mais façon Epic 6, c'est-à-dire notre jeu précédent où on avait tout illustré avec du libre de droit. Si on atteint telle somme, par contre, on commande des illustrations originales. Et donc, c'est ce que j'expliquais dans le podcast précédent. On n'a pas atteint la somme, mais on s'est quand même, engagé. Ouais. Alors, on a quand même lancé le principe. Et honnêtement, je ne le regrette pas parce que je pense vraiment... Quelque part, c'est bête, hein, mais je pense que l'illustration originale, c'est ce qui donne à ton jeu un côté pro.
Ah, mais c'est pas bête de le dire. Ça donne un côté pro et en plus, ça donne de la texture. C'est ce que tu vois en premier, une belle couverture. C'est un...
Bien sûr,
c'est essentiel, il y a des belles illustrations à l'intérieur. C'est un support à la lecture.
Je suis d'accord, mais quelque part, ça me désole parce que notamment, on a un cas... Un cas en France qui pour moi est un cas d'école, c'est Snorri. Je sais pas si vous suivez un petit peu ce qu'il fait. C'est un créateur de JDR français qui fait du JDR old school, que donc a créé deux mécaniques de donjons rétro, épée et sorcellerie et aventure fantastique, et qui écrit son univers petit cahier par petit cahier. L'univers s'appelle le dodécaèdre. Ce qu'il fait, c'est super, c'est vraiment de la très 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 bonne cam, sauf que toutes les illustrations sont libres de droit. Bah, dans l'esprit du lecteur lambda, c'est du JDRA, JDRA amateur, c'est pas du JDRA. Ce qu'il fait, c'est vraiment de la bonne qualité, et le fait d'être, entre guillemets, limité à l'illustration libre de droit, je pense, dans l'esprit de beaucoup, ça ancre ton jeu dans un côté amateur. Et le fait d'avoir des illustrations originales, tout de suite tu passes dans la catégorie au-dessus. Alors que fondamentalement ça change rien au texte. Mais c'est vrai que
la qualité d'illustration joue aussi. avoir de l'illustration originale si elle est préférable. Ça peut avoir l'effet inverse. Ouais, j'ai des souvenirs PDF où tu fais donc des trucs mis en vente et tu regardes les illustrations, tu fais non.
Ouais, mais je suis d'accord, il y a un cas, c'est Basic Fantasy, c'est un autre clone, etc., qui a une très très bonne presse. C'est vraiment un clone qui a une réputation, qui a une communauté qui le suit, etc. Donc il y a vraiment. On va dire que c'est un des clones qui surnage dans l'espèce de myriade de clones maintenant de DD qui existent. Et pourtant, à chaque fois que je l'ouvre, bah, je referme au bout de 3 pages. Les illustrations sont faites maison, mais manifestement par le petit frère de l'auteur. Et j'ai envie de me tuer. Et donc voilà, oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec François.
Si je peux juste revenir un petit peu sur les questions qu'on avait posé, on a un petit peu dérivé effectivement sur le professionnalisme assumé. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais essayer de revenir un petit peu sur ce qui fait le cœur en fait de ces questions-là, que je trouve super intéressant, c'est les compétences acquises en fait. C'est-à-dire, en faisant ce Kickstarter-là, t'as acquis un certain nombre de compétences, c'est normal en tant qu'auteur, mais t'as acquis aussi d'autres compétences. Est-ce que tu les valorises? Est-ce que t'as l'impression vraiment de les avoir acquises et que ça va te resservir pour plus tard? Je parle pas de l'expérience globale, je parle vraiment de trucs très précis comme, allez, faire de la pub, tu vois. Ça, c'est un truc qui doit t'arracher le cœur, et moi de la même manière, mais qui est obligatoire de faire un petit peu ça. Est-ce que t'as l'impression d'avoir acquis une certaine, pas maîtrise, mais en tout cas une aisance, plus d'aisance qu'avant, pour faire ce genre de truc, et donc être susceptible de le refaire par la suite?
Honnêtement,
en tant que chef de projet, pour mieux gérer ton temps ou des choses comme ça?
Honnêtement, non. Dans le sens où, vendre un jeu de rôle, si t'es un forumiste, on va dire un habituel, hein, quelqu'un qui passe de toute façon son temps à discuter de JDR, de théorie de JDR, de tel jeu je l'ai aimé, tel jeu je l'ai pas aimé, et pourquoi, etc., sur un forum, passer en mode « bonjour, je voudrais vendre mon jeu », c'est pas très compliqué. T'as juste le petit moment où faut mettre ta fierté de côté, parce que effectivement, t'es plus dans une logique de discussion d'égal à égal, t'es dans une logique de « voilà, j'ai quelque chose à vendre ». Donc ça, c'est un petit déclic psychologique, mais en termes de compétences, voilà, enfin, je passe déjà un nombre largement, un trop grand nombre d'heures à discuter sur les forums. Là, au lieu de le faire pour le plaisir, donc de débattre avec des gens qui sont de toute façon persuadés que t'as tort, et inversement, hein, ça va dans tous les sens, là, tu le fais, tu passes en mode pro, c'est-à-dire, tu parles de ton jeu, tu parles de ton projet, tu parles de ce que t'essayes de faire, au lieu de parler de ce que un tel ou bidule a essayé de faire sur son jeu que t'as adoré et que tu veux défendre. Donc fondamentalement la logique elle est la même, tu passes ton temps à traîner sur les forums, sauf que tu le fais pas exactement de la même manière. De même, le côté chef de projet, travail d'édition, etc., je veux pas minimiser le travail d'un éditeur, mais je pense vraiment que si t'es capable d'une réelle autocritique sur ce que tu fais et d'un minimum d'exigence, tu peux t'en passer. Mais pour le coup,
sincèrement, là, sur le jeu sur lequel je travaille en ce moment, qui pour le coup a trouvé preneur, il y a éditeur et tout, je trouve que alors pour l'instant il a pas le temps de s'en occuper parce qu'il a d'autres jeux à gérer, mais moi j'ai l'impression d'avoir livré et je suis vraiment en attente d'un retour critique sur le travail, de dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça faudra améliorer ça, etc. C'est d'avoir un regard qui soit extérieur et professionnel, parce que j'ai l'impression, malgré toute l'autocritique que je fais sur moi-même qui m'empêche d'avancer pour le coup parce que j'en fais trop, avoir ce regard là avoir l'avis de quelqu'un dont c'est le métier, qui sait ce qui va se vendre, etc., malgré toute la violence que ça peut tu vois me faire d'entendre dire que ça c'est pas bon ou que là faudrait mettre une nana, tu vois, j'aimerais quand même l'entendre, tu vois.
Ouais, mais
j'ai pas ce retour là
t'es dans une dynamique différente, parce que toi ta dynamique d'édition elle est via le circuit traditionnel. Je veux dire, moi je m'en fous qu'on me dise ça va se vendre ou ça va pas se vendre. Je l'ai déjà vendu, mon jeu. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
il y a une différence fondamentale. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai touché mon palier, je veux juste faire le meilleur jeu possible de mon point de vue.
C'est très intéressant.
Voilà,
ouais.
J'ai pas besoin qu'on
t'as
me dise.
Pas de concession à
voilà,
faire,
j'ai pas besoin qu'on me dise là, rajoute une meuf à poil et un fusil à pompe. Je veux dire, je sais exactement ce que je veux et j'ai déjà vendu. Donc, ouais, mais je suis pas du tout dans la même dynamique.
Au-delà de la vente elle-même, parce que là, c'est vrai qu'on est parti sur un optique vente.
Surtout qu'en plus, on a un petit problème en français avec le terme éditeur. C'est que le terme éditeur français englobe deux notions qui sont distinctes en anglais, du publisher et de l'éditeur, qui est d'un côté la personne qui t'aide à faire ton produit, enfin à écrire, qui te fait des retours critiques et qui t'aide à produire ce que tu veux produire, et de l'autre, ça c'est l'éditeur, et de l'autre côté t'as le publisher, qui lui est le gars qui transforme ton produit en objet qui va être vendu. Alors ça se regroupe au même dans la même structure, mais dans le cas que tu décris Yannick, il y a un boulot de publicateur, enfin publisher qui est fait, mais il manque une étape d'éditeur qui te dirait bah voilà, j'ai lu et voilà mes retours. Et le problème, c'est que quand tu combines les deux, tu vas te retrouver potentiellement avec des considérations liées au côté très mercantile, en bien ou en mal, qui vont se télescoper avec le côté éditeur. Alors, les notions de faire quelque chose qui au final va bien se vendre, faire quelque chose qui au final va plaire, donc parce qu'il plaît, va se vendre, c'est bien, c'est du travail d'édition. Faire du travail d'édition, c'est déjà t'aider à faire quelque chose qui va plaire, et si ça plaît, potentiellement ça va se vendre.
Ouais.
Mais il faut peut-être réussir à faire la petite distinction entre les deux. D'un côté, aider un auteur à produire quelque chose de mieux que ce qu'il est en train de faire, en l'aidant à virer les scories et à sortir ce qu'il a vraiment en tête, on va dire. Et ça, c'est plutôt une bonne honneur. Ça rejoint ce que tu as eu toi avec les potes du studio qui venaient t'aider.
Tout
ça, c'était du travail d'édition.
Mais ce retour, voilà, moi, je suis plus dans une logique justement de collectif, parce qu'effectivement, j'ai confiance dans les membres du studio. Tous, à un niveau ou à un autre, ils ont déjà fait leur preuve en tant qu'auteurs, concepteurs de jeux, etc. Quand je leur demande de me donner des renvois, enfin, des retours sur le texte, je sais que je vais devoir d'une manière ou d'une autre prendre en considération ce qu'ils vont me dire, que ce soit en tenant compte ou en sachant exactement pourquoi je n'en tiendrai pas compte.
Mais c'est normal de ne pas prendre en compte tous les retours, mais le tout c'est d'assumer le choix.
Tout à fait.
Dire, ok, ton idée, ton retour, il est bon, mais je peux pas.
Je ne le ferai pas.
Je ne le ferai pas parce que ça ne correspond pas avec ce que je veux faire, et j'assume par contre de ne pas le faire.
D'accord. Dernière question, si on a terminé avec ça. Tu disais que tu avais un autre jeu que tu étais en train d'écrire. La question, c'est est-ce que tu comptes refaire un financement participatif ?
Je sais pas. La cité m'a pas mal vidé, dans le sens où là j'ai beaucoup de mal. En fait, je démarre beaucoup de projets que j'abandonne au bout d'une dizaine de pages parce que je suis passé à autre chose, etc. J'ai du mal à me structurer. Le fait est qu'en plus mon rythme de vie a changé par rapport à l'époque où j'ai écrit la cité. Si je devais écrire là en l'état, je suis pas sûr que je me lancerais sur un financement participatif. Je pense que je vais vraiment me diriger sur des tout petits projets, encore plus petit que la cité. Dans l'absolu, j'aimerais bien me lancer sur l'équivalent de mini-modules. Tu sais, dans l'équivalent des modules de 32 pages qu'on avait, avec lesquels on jouait sur les aventures de donjons, etc. Des micro-settings, des micro-aventures, des embryons de campagne, ou des trucs de très petite taille. Et pour quelque chose aussi petit, je ne suis pas persuadé qu'un financement participatif se justifie. C'est pas la fin du monde d'accoucher de 32 pages.
Dans ce cas-là, ce serait sur quoi ? Sur du Lulu ?
Dans ce cas-là, c'est du POD ou de la
voilà,
PDF.
Tout à fait.
Ouais,
voilà.
Okay.
De toute façon, le financement participatif, tu ne fais pas ça juste pour le plaisir de gagner de la thune, tu fais ça pour financer quelque chose qui demande un effort certain, et qui est un effort qu'il faut, que tu souhaites voir rémunéré d'emblée. Sur les petites prods, effectivement, c'est peut-être un peu orgueilleux de passer par le financement participatif, alors que c'est pas forcément justifié.
Tout à fait. Là, le truc, c'est qu'effectivement, enfin, moi, j'ai assez mal vécu mes retards en financement participatif. Voilà, bon, bah, Epic 6, on a livré, on avait 3 volumes à livrer, on a livré le manuel des joueurs à temps, et le dernier, le troisième, le bestiaire, on l'a livré avec quasiment un an de retard. Bon. Je suis pas particulièrement content de ça. La cité sans nom, pareil, le compagnon s'est quand même vraiment fait attendre. Et ça me met dans une position que j'apprécie pas vis-à-vis des gens qui t'ont fait confiance. Donc, en tout cas, sur le prochain projet, je pense que je vais le faire vraiment à mon rythme. Ça sortira quand ça sortira. S'il y a des gens qui le prennent, tant mieux. S'il y a des gens qui le prennent pas, tant pis. Voilà. Je dis pas que je ne réutiliserai pas le financement participatif. Mais si je le réutilise, faudra vraiment que ce soit à la fois dans un contexte personnel légèrement différent, dans le sens où, par exemple, j'ai pris un mois de vacances, et je... Non, mais c'est tout con, hein, mais voilà, j'ai pris un mois de vacances en me disant, en un mois, je vais accoucher un truc, vraiment en mode auteur, tu sors de chez toi pour aller écrire, etc., dans un café, dans une bibli, n'importe quoi. Ou alors, je bosse avec quelqu'un d'autre. Normalement, je retrouve vraiment un binôme qui ait envie, lui aussi, d'être payé à l'avance parce que ses compétences, patati patata. Mais si ça n'engage que moi, je pense que je passerai direct en POD.
D'accord.
Sans financement participatif.
Ok, si on en a terminé, on arrive à la demi-heure. Merci beaucoup François, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et je pense qu'on a fait le tour là.
Oui, j'espère.
merci à tous et à bientôt.